Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ravis de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Le pape François a conclu son cycle de catéchèse sur les vices et les vertus mercredi 22 avril lors de l'audience générale Place Saint-Pierre en se focalisant sur l'humilité. Pour le Saint-Père, l'humilité est la porte d'entrée de toutes les vertus. Nous en saurons davantage juste après les titres. Le pape qui a nommé mercredi le révérend père Francis Beaumassan, l'actuel supérieur général adjoint des missionnaires d'Afrique, évêque du diocèse de Oua au Ghana. Début mercredi, des réquisitions pour le procès du massacre de 2009 en Guinée. Nous en parlerons dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira au Tchad et au Nigeria. Dans la deuxième partie de cette édition, nous serons au Cameroun, où l'École des sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC, organise un colloque international sur la promotion de la santé communautaire en Afrique, enjeux, défis et perspectives, à Yaoundé du 22 au 23 mai. Vous entendrez à ce sujet Dr Sylvie Myriam Mbomo, directrice de cette école. Et nous terminerons cette édition par la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique ce samedi 25 mai, une journée qui, selon le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar au Sénégal, interpelle à une prise de conscience des Africains à œuvrer eux-mêmes au développement de leur continent dans la liberté et la paix.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Le pape conclut son cycle de catéchèse sur les vices et les vertus mercredi 22 mai à l'audience générale tenue place Saint-Pierre. Le Saint-Père a consacré la dernière catéchèse de ce cycle à l'humilité, porte d'entrée de toutes les vertus. Le successeur de Pierre a souligné que l'humilité est une force invincible, seule vertu, source de paix dans le monde et dans l'Église. Delphine Allaire.
Humilité dérive de humus, signifiant la terre, la Bible nous le rappelle, poussière nous sommes, poussière nous redeviendrons, assure d'emblée François, mettant en garde contre l'antagoniste de cette vertu qu'est le plus mortel des vices, l'orgueil.
Mentre l'orgoglio e la superbia gonfiano il cuore umano, l'umiltà riporta tutto nella giusta dimensione.
Alors que l'orgueil et la fierté gonflent le cœur humain, l'humilité ramène tout à sa juste dimension. Nous sommes des créatures merveilleuses mais limitées, avec des qualités et des défauts, affirme le pape, regrettant les dangereuses illusions de toute puissance pouvant surgir du cœur de l'homme. Il appelle à se libérer de cet orgueil à l'image de Marie, jeune inconnue choisie pour être la mère de Dieu, louant sa petitesse intérieure, nourrie de douceur et pureté, préservée de la vile arrogance. Vertu granitique chez Marie, l'humilité est tout, selon François. C'est elle qui sauve du malin et du danger de devenir ses complices. Là où il n'y a pas d'humilité, il y a la guerre, la discorde, la division, constate le pape conseillant à chacun d'emprunter cette voie, source de la paix dans le monde et dans l'Église, la seule conduisant au salut.
À l'issue de l'audience générale, le pape a renouvelé son vibrant appel à prier pour la paix, car le monde est en guerre. Le souverain pontife a invité à ne pas oublier les pays martyrisés par des violences armées. Bien avant l'audience générale, le pape a reçu une délégation du Conseil des chrétiens de Hong Kong. Le Saint-Père a rappelé l'œcuménisme de sang et le sens ecclésial du martyr, exhortant les chrétiens à travailler et prier ensemble en attendant l'unité. Et le pape qui a adressé mardi 21 mai un message aux participants du symposium international et interreligieux sur les soins palliatifs, parrainé conjointement par l'Académie pontificale pour la vie et la conférence des évêques catholiques du Canada. Intitulé « Vers un récit d'espérance », ce colloque bioéthique se tient du 21 au 23 mai à Toronto. Jacques Ngol.
Dans son message, le pape François reconnaît que les soins palliatifs, tout en cherchant à alléger autant que possible le fardeau de la douleur, sont avant tout un signe concret de proximité et de solidarité avec nos frères et sœurs qui souffrent. Ce genre de soins qui peut aider les patients et leurs proches à accepter la vulnérabilité, la fragilité et la finitude qui marquent la vie humaine en ce monde, a fait remarquer le souverain pontife, rappelant combien les soins palliatifs authentiques sont radicalement différents de l'euthanasie qui, elle, n'est jamais une source d'espérance ni une authentique préoccupation pour les malades et les mourants. L'euthanasie est, selon François, un échec de l'amour, reflet d'une culture du rejet. Elle est souvent présentée à tort comme une forme de compassion. Pourtant, la compassion, un mot qui signifie souffrir avec, n'implique pas la fin intentionnelle d'une vie, mais plutôt la volonté de partager les fardeaux de ceux qui sont confrontés aux dernières étapes de leur pèlerinage terrestre, a-t-il fait remarquer. Dans ce sens, les soins palliatifs sont une véritable forme de compassion, car ils répondent à la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique ou spirituelle, en affirmant la dignité fondamentale et inviolable de toute personne, en particulier des mourants, et en les aidant à accepter le moment inévitable du passage de cette vie à la vie éternelle, a-t-il soutenu.
Au chapitre des nominations, le Saint-Père a nommé mercredi le révérend Père Francis Bomassan, l'actuel supérieur général adjoint des missionnaires d'Afrique, évêque du diocèse de Oua au Ghana. Né le 19 janvier 1962 à Kaléo, dans le diocèse de Oua, Mgr Bomassan, membre de la Société des missionnaires d'Afrique depuis 1983, a prononcé ses vœux perpétuels le 7 décembre 1990 et a été ordonné prêtre le 27 juillet 1991. Mgr Francis Bomassan succède ainsi au cardinal Richard Kouya Baobre, décédé le 27 novembre 2022 à Rome. Dans l'actualité de l'Église en Afrique, au Mozambique, Mgr Ignacio Saureu, archevêque de Nampula, a présidé une messe le dimanche 19 mai, dimanche de la Pentecôte, à la paroisse Cœur Immaculé de Marie Anchilo. L'archevêque mozambicain a dans son homélie plaidé en faveur d'une coexistence pacifique entre les personnes ayant des pratiques religieuses différentes. Il est honteux que des personnes s'entretuent en raison de leur foi en Dieu, a-t-il déclaré, avant d'appeler à travailler à l'unité autour du Christ, quelles que soient les différences entre les religions. L'actualité sociopolitique africaine à présent. Le ministère guinéen a commencé mercredi ses réquisitions très attendues contre l'ex-président Moussa Dadis Camara et 10 anciens autres responsables au procès du massacre du 28 septembre 2009, journée fatidique qui a soulevé un émoi international. Le procureur et les autres représentants du ministère public pourraient argumenter plusieurs jours devant le tribunal avant de déclarer quelle peine il requiert contre les accusés. Le premier ministre tchadien, Succès Nasra, a annoncé avoir présenté mercredi sa démission un peu plus de 2 semaines après sa défaite à la présidentielle du 6 mai remportée par le général Mahamat Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 3 ans. Des hommes armés à moto ont attaqué 2 villages voisins du centre-nord du Nigeria et tué 40 de personnes, selon des habitants, mais 9 selon les autorités, dans une région secouée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. Des bandits armés à moto ont fait irruption dans le village de Sourak, dans la circonscription de Ouazé, tirant des coups de feu et incendiant des maisons, a déclaré mardi le commissaire à l'information de l'État du Plateau, Moussa Ibrahim Achoum, qui avait d'abord annoncé 40 victimes avant d'en confirmer finalement 9 lundi. L'école des sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC, à Yaoundé, au Cameroun, organise du 22 au 23 mai un colloque international sur la promotion de la santé communautaire en Afrique, enjeux, défis et perspectives. Nous en parlons avec Dr Sylvie Myriam Mbomo, infirmière et anthropologue de la santé, directrice de l'école des sciences infirmières de l'UCAC, qui nous situe tout d'abord sur l'importance de cet événement.
Il était nécessaire d'organiser les colloques chaque année pour amener nos étudiants non seulement à s'acclimater à ce genre d'événement, de deux, à s'adapter également à des présentations de leurs travaux de recherche devant des chercheurs. Et comme ce sont des événements qui regroupent, n'est-ce pas, beaucoup de chercheurs, c'est également une opportunité pour les étudiants de faire leur rencontre, de discuter avec eux sur leurs problématiques de recherche. En réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous avons au niveau du troisième cycle des unités de formation en sciences sciences infirmières, en biologie clinique et en santé publique. Et donc, notre objectif, c'est que chaque unité de recherche fasse ce genre d'événement chaque année pour donc amener les étudiants à s'y intéresser. Donc, cette année, c'est l'unité de formation santé publique. Et le thème que nous avons choisi ensemble est celui de la promotion de la santé communautaire, enjeux, défis et perspectives.
Quelle est l'importance de cette thématique que vous avez choisie pour ce colloque international?
La santé communautaire est une santé très, très importante. La promotion de cette santé communautaire est très importante dans la mesure où la promotion de la santé amène les populations à prendre en main leur propre santé. Et donc, pour cela, il est question qu'on leur donne des outils pour pouvoir prendre en main leur santé. Et ça, c'est d'une manière simple la définition de l'OMS en ce qui concerne la promotion de la santé. Et quand nous pensons à organiser un colloque sur la promotion de la santé en Afrique, c'est que aujourd'hui le monde a évolué, surtout dans le domaine de la santé. Nous voyons, n'est-ce pas, le développement exponentiel des pathologies chroniques. Nous avons des problématiques de l'environnement et bien d'autres problématiques. C'est autant de problématiques qui nous amènent donc à mettre au centre la promotion de la santé. Et nous avons axé ce colloque sur la prévention des maladies et la mobilisation, la participation, l'autonomisation et développement communautaire. La pratique infirmière et action communautaire, la santé environnementale et le WASH, promotion de la santé, nutrition et alimentation communautaire, genre et inégalité sociale en santé vécue par les femmes. Voilà donc, n'est-ce pas, les axes essentiels de ce colloque.
Et comment pensez-vous que cette activité qui est purement académique puisse contribuer à aider la population à s'impliquer dans la promotion de la santé communautaire?
Le colloque, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un espace d'échange entre les chercheurs. Alors, dans ce colloque, ou alors au cours de ce colloque, nous avons les responsables du ministère de la Santé, nous avons des étudiants, nous avons des chercheurs, n'est-ce pas, qui participent à ce type d'événement. Et en participant donc, à ce type d'événement, ils vont bien évidemment suivre des communications. Vous voyez donc, en suivant les différentes communications qui seront faites, la prise de conscience est née à partir de là. Vous dites, tiens, cette santé communautaire, elle est d'une importance capitale. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Depuis, n'est-ce pas, la charte d'Ottawa sur la promotion de la santé. Donc, il y a déjà cette prise de conscience au niveau des participants qui fait que ça peut faire, n'est-ce pas, bousculer les consciences et automatiquement les politiques. Et voilà, ça peut aller jusqu'à sensibiliser ou alors à susciter des actions concrètes qui peuvent donc amener les populations à s'imprégner ou à participer.
Quel est l'impact de la santé environnementale et la promotion de la santé communautaire dans le domaine de la santé publique?
Actuellement, nous avons beaucoup de problématiques de santé environnementale. L'environnement est de plus en plus sollicité par l'être humain globalement. Cet environnement est détruit. Cet environnement est exagérément exploité. Ça fait donc que les effets, nous les ressentons aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez qu'on parle de plus en plus du réchauffement climatique. D'un et de deux, nous voyons également que dans nos villes africaines, je parle de l'Afrique, cet environnement est insalubre. L'insalubrité de cet environnement émane également de la non-prise, n'est-ce pas, en compte de ce que cet environnement insalubre peut affecter notre santé humaine. Donc, il est question davantage de sensibiliser les populations.
Voilà, à l'instant, docteur Sylvie Myriam Ambomo, directrice de l'École des sciences infirmières de l'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC, interrogée par Jacques Ngol. Notre invité du jour est le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar au Sénégal. Avec lui, nous parlons de la Journée mondiale de l'Afrique qui sera célébrée comme chaque année le 25 mai. Cette journée qui commémore la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, le 25 mai 1963, devenue l'Union africaine UIA en 2002, représente le symbole du combat de tout le continent africain pour sa libération, son développement et son progrès économique. Se réjouissant de cette institution, le cardinal Sarr estime que cette journée doit interpeller les Africains à une prise de conscience, à œuvrer eux-mêmes au développement de leur continent dans la paix et la liberté.
Je commence par me réjouir de l'institution de cette journée mondiale pour l'Afrique. J'essaie de rejoindre la finalité fixée à cette journée mondiale et j'y vois personnellement un temps fort. Un temps fort de retour sur soi où les Africains se livrent à un examen de conscience en ravivant la conscience de leur dignité humaine, la conscience de la liberté donnée aux hommes par le Créateur afin qu'ils conduisent eux-mêmes leur destin en référence à son dessein à lui, Créateur, son dessein sur l'homme. Pour moi aussi, cette journée est un temps fort d'évaluation où les Africains sont invités à se livrer à l'examen de la mise en œuvre par eux-mêmes de cette dignité qu'ils partagent avec tous les hommes. La mise en œuvre par eux-mêmes de la liberté qui leur permet de conduire eux-mêmes leur destin selon toujours le plan de Dieu.
Que vous inspire le visage que l'Afrique présente aujourd'hui au monde?
Alors, le visage de l'Afrique, pour moi, justement, je parle d'examen de conscience parce que je pense que l'Afrique ne se prend pas assez en charge et que même elle n'a pas assez conscience de soi, de sa dignité, pour montrer aux autres hommes qui sont leurs égaux et qu'ils n'ont pas à subir ceci ou cela de leur part. Donc, pour moi, l'Afrique aujourd'hui manque d'assurance en soi et de conscience de sa dignité, de la dignité des hommes. Également, je trouve que les Africains ne font pas assez d'efforts pour penser par eux-mêmes, parler pour eux-mêmes et agir pour eux-mêmes. On est trop dépendant, on laisse trop les autres faire, penser à notre place, parler à notre place, faire à notre place, décider à notre place, et évidemment, tout cela, c'est plus en référence à leurs intérêts qu'en référence aux intérêts de l'Afrique et des Africains. Il faut que nous-mêmes, Africains, nous nous regardions et nous nous considérions libres et responsables pour ne pas nous laisser influencer négativement par d'autres. Est-ce que toutes ces guerres-là que nous déplorons en Afrique, tout ce terrorisme, ça ne vient pas d'ailleurs? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de puissance, des mains souterraines, des mains inconnues ou invisibles qui influent le comportement des Africains dans le pays, la conduite, par exemple, des affaires des pays?
On s'interroge.
Est-ce qu'il n'y a pas des mains extérieures qui agissent discrètement sur les Africains pour leur faire faire ce qui sert leurs intérêts? Et donc, c'est encore toujours cette prise de conscience qu'il nous faut avoir et dire que ce n'est pas aux autres de dicter ce que nous avons à faire, mais nous-mêmes de voir ce qui est le meilleur pour nous, pour nos sociétés, pour nos pays, et comment nous engager à le définir, le réaliser. Certes, on a besoin de l'aide des autres, mais il ne faut pas que cette aide nous conditionne au point que nous faisons ce que veulent les autres que ce que nous voulons.
Alors, Éminence, quels sont vos vœux pour l'Afrique, votre continent, à l'occasion de cette journée mondiale qui lui est dédiée et qui sera célébrée le 25 mai prochain?
Alors, les vœux, justement, c'est le vœu d'un nouvel engagement où les Africains travaillent, s'emploient à penser leur destin, s'emploient à déterminer comment, par exemple, le développement économique, social sera mené dans chaque pays, par les fils du pays et non pas par d'autres influences extérieures. Compter sur nos propres moyens d'abord, moyens humains, moyens matériels et autres, et ensuite, maintenant, quand l'aide est nécessaire, accepter ou solliciter l'aide des autres. Donc, en somme, vraiment ce que je demande aux Africains aujourd'hui, c'est de se prendre en main en ayant conscience et de leur capacité, et de leur dignité, et de leur liberté qui fait que c'est à eux de conduire chaque pays, sa propre destinée, pour le bien de tous, l'épanouissement de tous les fils de chaque pays. C'est que Dieu nous aide justement à ce que ces prises de conscience dont je parle, ces évaluations dont je parle, nous acceptions de nous y livrer, de nous y employer, et surtout que Dieu nous donne cette conscience et cet amour de soi et de l'autre qui fait que nous arrivons à mettre en œuvre la liberté qu'il nous a donnée, les capacités qu'il a semées en nous pour mener notre destin. Afrique, lève-toi et marche. Prends ton destin en main et marche. J'ajouterai que cette prise en main de l'Afrique par elle-même, de son destin par elle-même, ce n'est pas nous enfermer, que l'Afrique s'enferme sur elle-même, mais qu'elle entre de plein pied dans le concert de la mondialité pour apporter elle-même ses contributions et non pas, encore une fois, tout recevoir des autres et tout attendre des autres. Voilà.
Le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar au Sénégal. Sachez qu'à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, les ambassadeurs du groupe africain accrédité par le Saint-Siège organiseront une messe en la basilique Sainte-Marie-Majeure le lundi 27 mai à 15h30, heure de Rome. Et cette Eucharistie sera présidée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.